Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Vassivière, ici Émilie depuis le studio de Feltin pour la 12e émission de
Élève-toi
avec les enfants.
Eh bien oui, c'est une émission pour vous tous qui vous occupez d'enfants ou qui vous préparez à le faire, que ce soit dans votre famille ou en milieu professionnel. Attention, effet secondaire possible de cette émission, vous pourriez avoir envie d'avoir un autre enfant ou d'avoir un enfant. Ça peut arriver. Alors c'est la rentrée, nous sommes le 3 septembre. Alors les parents, vous avez renvoyé les enfants à l'école? J'espère que tout le monde est content de cet été et aussi de cette rentrée. Alors moi j'ai fait ma rentrée hier soir au Fabuleux Destin. Voilà, je vous dis c'était hier, si vous êtes venus, merci. Et vu que j'enregistre avant, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, j'ai fait ma première conférence gesticulée qui s'appelle « Élève-toi toi-même ». Et si ça vous intéresse, si ça peut le faire, je serai prête à la refaire ailleurs qu'à Aubusson pour vos petits groupes, vos associations. C'est une conférence gesticulée sur l'école et l'éducation d'après mon parcours d'écolière, d'instit dans le public, d'instit dans l'alternative, d'instit en maison d'enfants, de maman en école à la maison. Et dans l'alternative, j'ai pas dit aussi de créatrice d'école. Et je mets le mot conférence, mais en fait, je raconte rien du tout de savant. C'est juste retracer un parcours pour inviter à se poser des questions autour de l'école, de l'éducation, des enfants et de notre posture auprès d'eux. Voilà, voilà. Alors, c'est la rentrée, je disais, mais vous savez, la rentrée, on n'est pas tout à fait encore obligé de la faire, puisque nous, par exemple, on ne l'a pas faite. On ne l'a pas faite avec les enfants, parce qu'on est en école à la maison. Et on a encore le droit de faire l'école à la maison dans ce pays. Mais quand même, c'est beaucoup moins simple qu'avant. Allez, je vous dis un petit mot là-dessus. Si vous vous demandiez qu'en est-il de l'école à la maison, alors, parce que si on s'en tient au gros titre, on pourrait imaginer que ça n'existe plus. Alors si, ça existe encore. Alors moi, je suis dans le cas facile, puisque l'an dernier, nous étions déjà en école à la maison avec rapport positif pour les deux enfants. Et nous avons le droit de continuer encore pendant 2 ans, histoire de réchauffer la grenouille tout doucement et pas de la faire bouillir directement. Et pour tous les autres qui n'étaient pas en école à la maison l'an dernier, ou même imaginons qu'il y avait déjà des enfants en école à la maison, mais que le petit dernier, la petite dernière vient d'avoir 3 ans, eh bien, il faut demander un dossier. Et là, il y a différentes cases, vous savez, différents CERFA. Alors, il y a le cas des familles en itinérance qui vont faire un dossier spécial pour bien prouver qu'ils sont vraiment en itinérance et que les enfants ne peuvent pas fréquenter une école de manière régulière. Il y a les enfants porteurs de handicap, les enfants qui ont une maladie. Il y a les enfants qui ont déjà un talent, une passion sportive ou artistique, musicale. Là, c'est un dossier différent. Donc, peut-être que votre enfant des 3 ans, il va être bon de le mettre au pipeau pour dire qu'il en joue toute la journée, qu'il ne peut pas aller à l'école ou dire qu'il fait des slaloms dans le parc, des parcours dans le jardin toute la journée, que vraiment, il ne peut pas aller à l'école. C'est déjà un très, très grand sportif et qu'on a remarqué que vraiment, il était très, très bon pour sauter les haies. D'ailleurs, futur athlète, et la France manque d'athlètes de haut niveau comme ça. Voilà, ça va vraiment justifier le dossier. Et puis après, oui, malheureusement, il y a les enfants victimes de violences scolaires. Et si on n'a rien de tout ça et que c'est juste qu'on a choisi d'être en école à la maison parce que c'est un choix familial pour l'enfant, la famille, ça nous correspond mieux, là maintenant, il faut remplir tout un dossier pédagogique où on va dire ce qu'on fait, comment on le fait, quel outil on utilise, un vrai projet pédagogique comme quand on est dans une école, un site, Et puis après, les services de l'État vont dire oui ou vont dire non, Donc, on appelle ça le motif 4 quand c'est raison personnelle et apparemment, cette année, ils ont autorisé 53% des demandes en motif personnel. Et bonne nouvelle, je lis sur les réseaux que ceux qui font des recours en justice obtiennent raison. Pas mal, les familles obtiennent raison. Alors, je dis pas tout le monde, bien sûr, je n'en sais rien, mais ça a l'air de pouvoir fonctionner. Donc, c'est-à-dire que oui, vous entendez bien ça. Maintenant, si on veut faire l'école à la maison, il faut faire un courrier à l'État et lui dire « S'il te plaît, papa, État, est-ce que je peux m'occuper de mes enfants ? Oui, j'aimerais bien leur faire l'instruction. S'il te plaît, tu peux me permettre de m'occuper de mes enfants ?» Tu es très, très gentil, c'est gratuit, l'école et tout. Mais là, en fait, je voudrais l'assumer, ça. Voilà, il faut le demander. Et donc, je disais, nous, c'est cool parce qu'ils nous ont donné 2 endroits pour ceux qui y étaient déjà et qu'on n'a pas de petit dernier qui vient d'avoir 3 ans. Mais quand même, je suis solidaire avec toutes ces familles qui ont dû se taper le dossier et encore plus avec toutes celles qui ont obtenu un non alors qu'elles étaient ultra motivées et que leur enfant va bien. Alors, vous savez, dans le monde de l'école à la maison, il existe vraiment plein de raisons. Il y a vraiment plein de familles différentes. Alors, on entend parler de homeschooling, de unschooling, de l'anglais. Donc, homeschooling, faire l'école à la maison. Unschooling, ne pas faire l'école, hein, les apprentissages informels. Alors, moi, je ne peux pas vous dire si je suis un des deux, parce que c'est pas aussi noir ou blanc que ça. Et puis, ben oui, à une époque, j'ai lu John Holt, Les apprentissages autonomes. J'ai lu Ivan Illich, Une société sans école. J'ai lu André Stern et Je ne suis jamais allée à l'école. Petite parenthèse, j'ai d'ailleurs écrit le petit livre que j'ai écrit et je suis allée à l'école, parce que moi, j'y suis beaucoup allée si lui n'y est pas allé. Et c'était au moment où je l'ai rencontré que j'avais fini, que je cherchais un titre. Vous pouvez le trouver sur The Book Edition. Et donc, je disais, oui, il y a vraiment plein de raisons pour que les enfants n'aillent pas à l'école et plein de manières de faire. Alors moi, je crois dans les apprentissages informels, donc il y a plein d'apprentissages informels, mais ça ne veut pas dire que je rechigne aux apprentissages formels, parce que je trouve qu'il est quand même toujours hyper important de bien regarder l'enfant, de quoi il a besoin, où il en est lui, et puis de lâcher toutes les grandes idées, les idéologies qu'on a pu avoir, et vraiment répondre aux besoins de l'enfant. Et moi, j'ai des enfants qui aiment aussi avoir des temps d'apprentissage formels. Donc, j'essaie de les faire les plus intelligents possibles et de toujours mettre la créativité, le côté ludique et bien sûr la relation au centre pour que ça se passe bien. D'ailleurs, je vous avais passé tout un podcast, il y a un podcast d'une heure à peu près, c'est Jessie Canel qui m'avait interviewé. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, Grandir Podcast par Jessie Canel, où je raconte tout ce parcours et où je vais parler des apprentissages formels, informels. Et de tout ça, peut-être que vous étiez venu voir Bernard Collot, je l'avais fait venir d'ailleurs en 2011, je crois, à Felletin, et aussi j'avais témoigné de la création d'une école dans ce style-là, les écoles du troisième type, en 2016 peut-être. Enfin bref, je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur l'école à la maison, vous dire que c'était encore possible, mais que ça se passait dans des conditions très précises. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, surtout, c'est que maintenant, il n'est plus possible de sortir son enfant de l'école. Là, vous l'avez mis jeudi, vous aviez signé. Pour le sortir, il faudrait que deux cas très malheureux, qui seraient que votre enfant serait malade, une nouvelle maladie qui surviendrait, qui l'empêcherait d'aller à l'école, ou bien qu'il soit victime de violences scolaires et que ce soit reconnu par le chef d'établissement ou le directeur-directrice pour pouvoir sortir de l'école et passer en école à la maison. Voilà. Sinon, maintenant, il faut attendre le printemps prochain pour rédiger un dossier et obtenir une réponse pour septembre d'après. Donc c'est parti pour un an d'école quand on a fait ce choix-là, au moins de ces deux tristes cas que je vous ai dit et que je ne vous souhaite bien sûr pas du tout. Donc c'est parti pour l'école, donc j'espère que ça va se passer le mieux possible. Hein. Voilà, c'était juste une parenthèse là-dessus, sinon je vais continuer de vous parler des bébés. La semaine dernière, je vous ai parlé des pleurs des bébés. Et donc l'importance à la fois d'être auprès de bébés quand ils pleurent, et aussi l'importance de ne pas chercher à le distraire, à chercher à arrêter les pleurs, parce que le seul moyen que les pleurs s'arrêtent, c'est de les écouter. Vraiment d'accueillir. Donc je vous disais, comment faire pour être là avec chaleur, douceur, amour, sans trop parler, mais vraiment le rassurer et pour qu'il puisse pleurer tout ce qu'il a à pleurer et après aller bien. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire d'autres choses sur les bébés. Alors je vais commencer par le cododo. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cododo, pratiquer même le cododo. Alors c'est quand un bébé, il dort avec maman, à la naissance. Parce que dans les maternités, je sais bien, il y a ces récipients à bébé en plastique là. Mais c'est bien, c'est pratique, hein, ça peut servir à mettre du linge, à mettre un sac. Mais pour moi, c'est pas trop pour mettre bébé ces choses-là. Bébé, il sort du ventre et il a vraiment besoin de chaleur et de contact physique. Et le meilleur endroit possible où il puisse dormir ses premières nuits, c'est sur le ventre de sa maman ou de son papa. Mon deuxième fils a dormi tout son premier mois sur mon ventre. Et c'est au bout d'un mois qu'il, de lui-même, a commencé à basculer sur le côté. Puis il a dormi à côté de moi pendant longtemps, un an. Puis après, il a dormi sur un matelas encore à côté de moi jusqu'à 2 ans avant de passer dans une chambre avec son frère. Bon, c'est parce qu'on n'a pas de chambre pour un chacun pour l'instant, mais... Voilà, donc l'idée que bébé doit dormir dans sa chambre, et je sais, moi aussi je m'étais fait avoir par ça avant le premier, de préparer une jolie chambre, de coudre des décorations, tout ça. Mais en fait, une fois qu'on a bébé, ben non, on se rend compte que il a besoin d'être là, en fait, tout contre nous. Et aussi, là, s'il dort tout contre nous, eh bien, on peut entendre les premiers petits gazouillis qui dit qu'il y a quelque chose, qu'il a besoin de quelque chose, que ce soit de téter, un pipi, un caca, qu'il a trop chaud, trop froid, il fait d'abord un gazouille, il ne va pas pleurer pour ça. S'il en vient à pleurer, c'est parce qu'il a déjà fait tous les gazouillis et qu'on ne l'a pas entendu, parce qu'il était dans une chambre de l'autre côté et qu'on ne pouvait pas l'entendre. Donc, d'autant plus quand on est en allaitement, eh bien, voilà, bébé, il dort à côté, c'est beaucoup moins fatigant, il n'y a pas besoin de se lever, il y a juste à le prendre, à le mettre au sein, on peut tous s'endormir, c'est pas grave. Et il n'y a pas besoin de, voilà, de se lever, de le prendre. Et voilà, s'il dort juste là, eh ben, il y a vraiment cette symbiose, cette connexion entre la maman et le bébé pour sentir aussi quand est-ce qu'il a besoin de téter. Et voilà, donc le cododo peut faire peur parce que je crois que des médecins disaient à une époque « Attention, vous pouvez écraser votre bébé, ne le faites pas si vous prenez des médicaments, si vous avez bu ». Bon, évidemment, on va éviter tous ces cas-là. Hein. Donc, tout va bien, on peut dormir avec bébé et il y a plein de bébés qui dorment avec leurs parents et tout va bien. Et c'est vraiment un besoin qu'il a et si on est à l'écoute, je vous dis vraiment, le bébé, il va s'éloigner petit à petit, lui aussi. Et le parent aussi, voilà, on va s'éloigner petit à petit. Alors, je ne dis pas de les garder dans notre lit et dans notre chambre jusqu'à 4 ans, hein, ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est d'écouter le rythme de chacun. Hein. Et on pourrait se dire, oui, non, mais là, c'est des mauvaises habitudes. Oui, au début, je le cachais, moi, avec mon premier qui dormait à côté de nous, comme ça, il ne fallait pas le montrer. C'est des mauvaises habitudes, tu vas leur donner des mauvaises habitudes. Oh, ben non, il faut qu'il aille dans son lit, après, il faut qu'il aille dans sa chambre, on ne va pas en faire des caprices, hein. Il ne faut pas qu'il soit dépendant comme ça. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il a besoin d'être dépendant pour ensuite devenir indépendant. Mais il a d'abord vraiment besoin d'être dépendant. Il vient de passer 9 mois au chaud dans le ventre de maman. Et vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a à faire de nouveau, déjà respirer, téter, pipi, caca, être dans un corps qui peut à peine bouger, être complètement dépendant. Enfin, non, mais il a vraiment besoin d'être rassuré et d'avoir vraiment une proximité. Le bébé, surtout le nourrisson, le tout petit là. Alors, si vous êtes retrouvé dans un cas où bébé a dû être séparé, si vous aviez fait le choix de la pouponnière, là, de le mettre dans une autre salle pour pouvoir dormir, eh bien, il ne s'agit pas non plus de culpabiliser. Hein. Culpabiliser, ça ne fera jamais de bien à qui que ce soit. Et c'est en pleurant, en fait, hein, que le bébé il va pouvoir guérir de ces moments-là. Donc, voir l'émission numéro 11 de la semaine dernière. Donc, importance voilà, du cododo et d'écouter le rythme. Mais ça ne veut pas dire non plus tomber dans... alors, des fois, on appelle ça le maternage proximal. Je vois que des fois, c'est aussi tomber dans des pièges. Quand la maman a été elle-même assez abandonnique, je connais le sujet puisque je l'ai été longtemps, eh bien, elle peut avoir envie de garder trop le bébé avec soi, de vraiment, c'est elle en fait qui en a besoin et qui n'arrive pas à s'en séparer. Alors là, c'est un autre problème, hein. mais c'est pas parce qu'on dort avec bébé qu'on est en cododo qu'on est dans cet extrémisme-là. Alors, extrémiste, je sais que ça ne fera pas plaisir, hein, parce que ça part toujours d'une bonne intention. Hein. Ce maternage trop intensif dont je parle part toujours d'une bonne intention, qui est prendre soin de bébé. Mais en fait, ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de prendre soin du bébé à l'intérieur de moi, dont les besoins n'ont pas été assouvis, et que je projette tout ça sur mon bébé. Voilà la question. Donc le cododo, le portage aussi hyper important, hein. Donc il y a les écharpes, alors c'est pas forcément hyper compliqué, hein. Moi je connais qu'un nœud, il y en a qui en connaissent plein, qui font des ateliers et tout pour ça, si on a envie d'approfondir, mais juste avec un nœud déjà, on peut porter son bébé, une écharpe ça vaut pas cher, ça s'emprunte, ça se trouve, et ça permet vraiment d'avoir bébé contre soi en journée, qu'il puisse faire des siestes voilà, vraiment contre soi, papa ou maman, ou une autre personne, hein, d'ailleurs, une autre personne avec qui il est en sécurité affective. Et notamment, alors ça je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, en accompagnant une amie qui avait mis son bébé là dans la poussette sur une fête médiévale. Et après, la petite, elle pleurait beaucoup, et le lendemain, on y retournait, mais elle l'a mis en porte-bébé, en écharpe, parce qu'elle s'est rendue compte, en fait, que, en plus, elle avait 3 mois, que ça va être beaucoup plus facile pour bébé d'aller découvrir le monde extérieur, s'il est contre nous, s'il est rassuré. Alors que dans la poussette, eh bien, il n'y a plus la chaleur, il n'y a plus le contact physique. Et puis, il y a ces visages qui vont se pencher sur le bébé, là. Et c'est beaucoup plus inquiétant. Donc, pour aller aussi voilà, découvrir le monde, c'est important d'avoir cette proximité qui va rassurer. Et là aussi, comme pour le cododo, on peut tomber dans le panneau de ce maternage un peu trop intensif et de tout le temps mettre bébé en portage. Voilà, pour un oui, pour un non, ah, il pleure dans ce qu'il veut être porté. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est juste non plus de tout le temps le porter. Alors, le premier mois, par contre, c'est quand même tout à fait juste qu'il soit beaucoup, beaucoup porté. Et après, ben, petit à petit, ça va diminuer parce qu'il va y avoir aussi les moments où il va être posé. Ça, j'en parle après, de la motricité libre de le poser sur un tapis. Et donc, voilà, ça va augmenter les moments où il va être posé. Il ne s'agit pas voilà, de tout le temps le prendre. Si on est tout le temps en train de le prendre, on a l'impression que ça ne va pas si on ne le prend pas en portage, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est que le problème, il faut écouter l'émission numéro 11 et revoir au niveau des pleurs. Parce qu'il a sûrement besoin de pleurer pour décharger. Et on peut éviter, distraire l'enfant de ses pleurs en le portant trop. Toujours une notion d'équilibre en fait, hein, et la justesse avec laquelle on va faire chaque geste. Donc je disais, il y a l'écharpe et il y a aussi bah, les porte-bébés, hein, il y a différentes marques qui font ça très bien. Et voilà, c'est super pratique. Moi j'ai porté mes deux enfants devant puis derrière longtemps, j'ai jamais eu de poussette. Bon après j'avais un vélo électrique avec un siège dessus, on pouvait se promener comme ça, c'était bien pratique. Mais voilà, donc si on a envie d'avoir une poussette, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez avoir un enfant et que vous voulez absolument acheter une poussette avant, bah en fait, c'est peut-être pas la peine. Hein. Alors la poussette, c'est très pratique, bien sûr, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, qui ont mal, qui ne vont pas pouvoir porter. Mais sinon, en fait, on n'en a pas forcément besoin. Donc le cododo, le portage, et puis bah, la motricité libre. Alors bébé, on va le poser de plus en plus sur un tapis. C'est quoi la motricité libre? Eh bien ce sont les travaux de Amy Pickler, docteur en Hongrie à l'OXI, avec des enfants orphelins si je ne m'abuse. Et donc elle a observé comment se faisait le développement moteur d'un enfant et comment le favoriser. Ça s'appelle au final la motricité est libre. Alors, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai découvert cette motricité libre un petit peu à mes dépens. On était avec des amis, elle était psychomotricienne, et puis on avait pris sa petite, et mon compagnon la repose et l'assoit, je crois, alors qu'elle ne savait pas encore s'asseoir. Et là, la maman arrive en disant « Mais non, elle ne sait pas s'asseoir, donc tu ne l'assois pas. Tu la mets dans une position qu'elle a déjà acquise d'elle-même. » Hyper intéressant. Et oui, c'est hyper fort ça. L'idée, c'est qu'on va jamais mettre l'enfant dans une position qu'il ne sait pas, pour laquelle il ne sait pas s'installer lui-même. Donc au début, on va le mettre que sur le dos ou que sur le ventre. Et la première chose qu'il va apprendre à faire, c'est à se retourner. Et je n'assois pas l'enfant tant qu'il ne sait pas s'asseoir. Et ça, je le vois très souvent. L'enfant qui est assis alors qu'il ne sait pas encore s'asseoir tout seul, après il est mal, il ne sait pas bien sortir de la position, il est coincé. Et au niveau de la construction de l'image de lui-même, eh ben, c'est pas cool, c'est pas bon. Autre erreur qu'on va souvent faire, c'est le mettre debout alors qu'il ne sait pas encore se mettre debout. Ben non, on le posera debout quand lui-même saura déjà se mettre debout. Ou le faire marcher alors qu'il ne sait pas encore marcher. Non, il apprendra de lui-même à marcher et nous, on le soutient, on est là pour parer, pour empêcher qu'il tombe, pour le soutenir, lui donner tout l'amour dont il a besoin pour ce développement qui est énorme. Donc l'idée de la motricité libre, c'est vraiment ça. Je vais mettre l'enfant dans des positions qu'il a déjà acquises et je ne le mets pas dans l'inconfort, je ne le mets pas mal en le mettant dans des positions qu'il n'a pas encore acquises. Parce qu'au niveau du développement de toutes ses chaînes motrices, eh bien ça va vraiment le desservir. C'est à lui de tout développer. Et donc, libre aussi dans l'idée où je ne vais pas le mettre dans des récipients à bébé. Les transats et tout ça, en fait, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est vraiment un tapis sur lequel il puisse bouger. Alors, il ne faut pas un tapis trop mou, parce que quand le tapis est trop mou, il appuie sur le tapis, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait une conséquence à son geste. Donc, s'il appuie, il faut que ça puisse, qu'il puisse se remonter. Donc, il ne s'agit pas de le mettre sur le béton non plus. Hein. Trouver un tapis qui soit suffisamment rigide pour que l'enfant ait le résultat de son action. Et puis, ben, on évitera aussi les parcs, parce que les parcs ben, vont empêcher pas mal de choses. Et notamment, il y a une étude qui montre que ça va empêcher d'apprécier les déplacements et les vitesses. Et puis après, on va sécuriser un maximum la maison, l'endroit où l'enfant évolue, pour qu'on ait un minimum de non à dire, mais voilà, enlever les dangers possibles, mettre des barrières là où il faut, pour qu'il puisse se déplacer librement dans la maison. La motricité libre, c'est vraiment passionnant, je trouve, parce que quand on a cette approche avec l'enfant, c'est vraiment un régal, un bonheur de le voir se développer petit à petit à son rythme, sans mettre d'obstacles. En fait, c'est vraiment ça, c'est ne pas mettre d'obstacles, ne pas nuire, avant tout, ne pas nuire à son développement. Alors, il y a autre chose qui peut nuire à son développement, c'est quand les grosses couches, en fait, et des vêtements qui empêchent de bouger. Alors, pour mon premier, on a fait les couches lavables. Et même si j'avais entendu parler de l'hygiène naturelle un petit peu juste avant d'accoucher. Et les couches lavables, et ben ça fait des gros popotins. Hein, c'est très encombrant. Et puis, il y a des moments où vraiment ça gêne l'enfant, c'est frustrant. Les moments clés, là où il est en train d'apprendre à se retourner, où il est en train d'apprendre à se mettre à quatre pattes, à s'asseoir, à bouger, ça peut vraiment le gêner, ces grosses couches-là. Alors on peut les enlever en fait. Hein, si le tapis il est un peu plastifié, c'est pas grave. Au pire, s'il y a un pipi dessus, on l'essuiera. Hein. Peut-être ça vous choque ce que je dis, mais bon, en fait, ça sert l'enfant, ça. Il a besoin, il est en train de construire quelque chose d'important dans l'image de lui-même, dans son corps. Et ça a des répercussions sur plein d'apprentissages qui arriveront après, en fait, tout ce qui va se passer, là, qu'il fasse bien les croisés. Et voilà, donc enlever les couches sur les moments clés, c'est vraiment génial. Mais encore mieux, il y a l'hygiène naturelle, je pourrais vous en parler aussi. Voilà, donc si vous voulez approfondir plus la motricité libre, il faut se référer aux travaux d'Emmy Pickler à l'OXI en Hongrie. Et sinon, il y a des sites en français qui donnent ces bases-là. Mais vraiment, vous verrez, il n'y a pas grand-chose de plus compliqué à comprendre que ça, que je ne nuis pas en ne le mettant pas dans des positions qu'il n'a pas déjà acquises et je ne le bloque pas. Je le bloque où ? Alors, si vous avez vraiment envie d'utiliser des transats, tout ça, mais allez-y, faites-le. Hein. Moi, je vous donne juste un avis, je vous parle de choses qui fonctionnent, mais il n'y a pas de... Je blâme personne, chacun fait comme il le veut. Voilà, mais juste, on n'est pas obligé d'utiliser tout ça et ça va le servir dans son développement, qu'il puisse bouger librement, mais en sécurité. Et c'est à nous de penser la sécurité. Et comme toujours, bien sûr, pour que le développement des apprentissages se fasse avec amour. Allez, je récupère ma souris. Tadadam. Et si je la récupère là, ça va pas. C'est bon. Allez, je disais.
Musique maintenant.
Alors je continue mon petit jeu de vous mettre des chansons avec le mot papa ou maman. Et j'en ai trouvé vraiment une classique très très jolie à vous faire entendre aujourd'hui.
Maman, c'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu m'étomberas. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans de rêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. C'est toi, maman, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi,
vous avez reconnu Luis Mariano, Mama, la plus belle du monde. Il grimpe bien à la fin. Hein. Alors, peut-être que cette chanson vous a donné, comme moi, l'envie de ne peut-être pas acheter le prochain paquet de henné, de laisser mes cheveux grisonner. Je vais voir. Vous êtes toujours sur Radio Vassivière, à l'écoute de la 12e émission. Élève-toi
avec les enfants.
Ici, Émilie, alors je vous parlais des bébés aujourd'hui et puis l'émission commence à approcher de sa fin et donc je continuerai de parler des bébés la semaine prochaine et la semaine prochaine ça sera à 13h30 et pas à 15h exceptionnellement.
Un défi pour les parents.
Oui, un défi pour vous les parents. Eh bien ce défi cette semaine, je vous propose d'observer le moment en vous où vous êtes déçus. Le moment où, oh zut, il fait ça, mon enfant, vraiment, ah zut, voilà. Venir accuser réception de la déception à l'intérieur de vous quand l'enfant fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Parce que si vous arrivez à accuser réception de ça, vous allez réussir peut-être à avoir un petit peu d'empathie envers vous-même, oh zut. Et puis, ne pas réagir, que ce ne soit pas votre personnage déçu là qui va réagir à ce que fait l'enfant. Si vous arrivez à bien accueillir cette déception en vous, alors après il y a beaucoup plus de chances de pouvoir répondre à ce qu'il se passe plutôt que de réagir. Vous voyez la différence ? Quand je réagis, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui sonne faux, va de travers, et là c'est mon personnage qui va prendre le dessus, l'ego si vous voulez, et qui va venir râler, comparer, juger, punir, crier. Alors que si j'arrive à bien, comment dire, prendre soin de moi, accuser réception de ce qui se passe en moi, avoir de l'empathie pour moi-même, j'arrive à appuyer sur pause et à ne pas laisser ce personnage réagir. Et ensuite, je peux apporter une réponse adaptée à mon enfant. Donc voici le défi, réussir à accueillir cette déception. Ça peut être de la tristesse même. Oh non, il n'est pas encore en train de faire ça, c'est pas vrai. Voilà, mais l'accueillir en soi avant de parler, avant de se retourner vers l'enfant.
Un livre pour les parents.
Bah, vu que c'est la rentrée, le livre que je vous propose, c'est Chronique d'une école du troisième type par Bernard Collot. Et ce livre, j'en ai un exemplaire à vous prêter, il est à Felletin. Et à partir de la semaine, à partir du 13 septembre, je vais sur Faux-la-Montagne. J'en suis peut-être aussi sûrement les mardis et souvent les jeudis. Donc je peux vous prêter ce livre, Chronique d'une école du troisième type. Et il y a, alors ça c'est la version pour tout le monde hein, vraiment. Et pour ceux qui travaillent dans les écoles, hein, les instituts, mais ça peut intéresser aussi les ATSEM, plein d'autres gens. Eh bien il y a une école du troisième type qui est aussi très intéressant et que je peux aussi vous prêter. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau de l'actualité ? Eh bien oui, je vous l'ai dit, le principal, samedi 10 septembre, ce sera à 13h30 au lieu de 15h pour notre 13e émission. Je vous souhaite un excellent début de septembre et une très bonne journée à l'écoute de Radio Vassivière.